Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussaou Pondé.
Au moins 42 cas suspects de monkeypox identifiés parmi les réfugiés vivant en RDC. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à la solidarité internationale pour contenir le virus dans les camps des déplacés. Conversion du gaz du lac Kivu en électricité et installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites à travers le pays. La première ministre et les directeurs généraux de la société Mai Hydro ont échangé hier mardi sur les projets. Le coordonnateur régional du réseau des organisations de la société civile contre les recrutements et l'utilisation d'enfants par les groupes armés et notre invité, Namegabe Mourabaza, va analyser le contexte de recrutement de cette catégorie de la population dans la province du Sud-Kivu. Bonjour à tous. Le HCR appelle à la solidarité internationale pour contenir le virus de monkeypox dans les camps des déplacés en RDC. Sans un soutien supplémentaire et urgent, l'épidémie de Mpox pourrait devenir dévastatrice pour les réfugiés et les déplacés internes en RDC et dans d'autres pays touchés en Afrique, affirme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 18 000 cas suspects et 615 décès ont déjà été recensés à ce jour en RDC, rappelle le HCR qui le dit dans un communiqué que nous résume ici Gisèle Cage. Dans la province du Sud Kivu, l'une des régions les plus touchées par le Mpox, au moins 42 cas suspects ont été identifiés parmi les réfugiés. Des cas confirmés et suspects ont également été enregistrés parmi les réfugiés en République du Congo et au Rwanda, indique le HCR dans son communiqué. Selon la même source, des cas suspects sont signalés dans les provinces touchées par les conflits qui accueillent la majorité de 7,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. Les familles déplacés qui vivent dans des écoles surpeuplées, des églises et des tentes dans les champs des agriculteurs n'ont pas d'espace pour s'isoler lorsqu'elles développent des symptômes de la maladie. Cette nouvelle inquiétude liée à la propagation du Mpox intervient alors que la réponse humanitaire du HCR en RDC n'a reçu que 37% de 250 millions de dollars nécessaires en 2024 pour répondre aux besoins urgents des personnes déplacées. La solidarité internationale est nécessaire de toute urgence pour développer le service de santé, le centre d'isolement, les abris humanitaires, l'accès à l'eau et au savon pour les personnes contraintes de fuir, insiste le responsable de la santé publique au HCR.
La province du Haut-Katanga n'a pas encore notifié des cas positifs de monkeypox jusqu'à ce jour, hormis quelques cas suspects. Information livrée par le médecin inspecteur provincial à l'issue de la réunion stratégique sur la situation de la crise sanitaire relative à la variole de singe présidée par le ministre provincial de la Santé. Au cours de cette rencontre, la population a été appelée à la vigilance. D'ample détail avec Dr Nick-Thérèse Kaila dans cet extrait proposé par Jean Gandou.
Dans la province du Haut-Katanga, 18 échantillons sont prélevés auprès des cas suspects et 0 cas positif jusqu'à ce jour. La surveillance est mise en place sur toute l'étendue de la province. Pour ce qui est de la prise en charge, des dispositions sont prises pour la gratuité des soins qui seront offerts aux cas positifs dans les formations sanitaires ciblées. Et cela précédé par la formation des prestataires. La population est appelée à la mobilisation communautaire, à la vigilance et au respect des mesures préventives. Le gouvernement provincial se mobilise pour faire face à cette crise.
Elles ne sont pas seulement victimes des maladies comme les monkeypox, mais aussi de la précarité. Pour survivre, de nombreuses filles et même des femmes âgées déplacées des guerres sont obligées de se prostituer. Nous sommes à Beni, dans le Nord Kivu. Déjà à partir de 20h, heure locale, elles racolent au bord de la chaussée aux abords de la ville, non loin du rond-point Nyamwisi. La plupart d'entre elles, parmi lesquelles même des mineurs, disent le faire pour la survie de leur famille, avec tous les risques encourus. Elles ont du mal à décliner l'offre, même sans protection, l'essentiel étant d'empocher les 5000 francs congolais. Ce reportage est signé Sadiki Aboubakar.
Elles sont de tous âges et de toutes catégories, reconnaissables à leur accoutrement. Nous sommes lundi, en plein cœur de la ville de Béni, il est 22h. À notre approche, sous la pénombre du lampadaire, tout accourt vers nous. Le tarif est unique, 5000 francs congolais, mais à discuter. Une fois notre identité journaliste déclinée, comme un seul homme, tout s'éloigne de nous. Non loin de là, se trouve un bar et un hôtel de fortune où nous croisons Monseka, nom d'emprunt d'une jeune fille qui affirme qu'elle se prostitue depuis 2017. Ce métier, son gagne-pain, lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, c'est un métier à risque.
Nous rencontrons des inconnus. Ils peuvent agresser, mais on ne peut se plaindre nulle part.
Ici, dans cet hôtel de fortune, le prix d'une chambre varie entre 2000 et 3000 francs congolais. Le responsable de l'établissement déplore la rupture de l'approvisionnement en préservatifs par les autorités sanitaires depuis quelques années.
Si tu viens pour un repos, on te donne deux préservatifs.
La vulnérabilité des personnes déplacées est l'une des causes de la prolifération de la prostitution dans les milieux urbains du Nord Kivu, a fait savoir dans son récent rapport la coordination provinciale du programme national de lutte contre le SIDA, PNLS. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
À Kananga, les retournés d'Angola installés à Chilumba, dans la commune de Katoka, ont débuté la récolte des cultures de leurs champs. Ce site, situé à 7 km de la ville de Kananga, a été aménagé par le HCR à travers son partenaire ADES pour leur réintégration dans le cadre du programme de villagisation. François Kadima a assisté à la première récolte de manioc et voici son reportage.
Plusieurs familles sont installées sur le site de Chilumba dans la commune de Katoka à Kananga. Ces personnes revenues de l'Angola avec l'aide du HCR avaient fui la guerre de Kamuina-Nsapu. L'ONG Association pour le Développement Social et Sauvegarde de l'Environnement ADES, partenaire du HCR qui accompagne ces retournés à travers différents projets, leur avait donné des semences, de maïs, des manioc et des pistaches qu'ils ont plantées. C'est le moment de la récolte qui a commencé avec le manioc. Une dame avec sourire aux lèvres trouvée sur place s'exprime.
J'ai planté depuis l'année passée. Aujourd'hui, j'ai fait la récolte de manioc. Je vais avoir de la farine pour consommer, vendre et une autre partie, avoir de l'argent pour survivre. Du côté de la DES, le chargé de suivi et évaluation indique que le souci est de permettre à ces retournés de s'autosuffire et devenir autonomes. Mathieu Mboma.
Nous avons aménagé des champs en faveur de rapatriés qui viennent de l'Angola. Pour notre projet, c'est de pouvoir les accompagner pour que finalement ils aient les moyens pour s'autonomiser.
Signalons que ces personnes revenues de l'Angola sont installées sur les sites de Chilumba depuis 2022. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Parlons à présent de ces deux importants projets sur la table de la première ministre, celui de conversion du gaz du lac Kivu en électricité et du projet d'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers le pays. Ils étaient au cœur de l'échange que Judith Suminois a eu hier mardi à la primature avec Paul Inks, directeur général de la société My Hydro. Face à la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans les profondeurs du lac Kivu, le gouvernement veut lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production d'électricité. On écoute à ces sujets le directeur général de la société My Hydro.
Nous avons rencontré son excellence, madame la première ministre, pour discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative et nous pensons que ces questions pourront être résolues assez rapidement et dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le deuxième projet concerne les projets d'hydroélectricité que nous voulons mettre et développer dans l'ensemble de la République. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités et sur 33 sites identifiés dans différentes partie de la République pour installer des micro-barrages hydroélectriques.
Paul Inks, directeur général de la société My Hydro, estime que l'exploitation de ce gaz va favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Dossier farine de maïs contaminée à l'aflatoxine en provenance de la Zambie. Désormais, la Fédération des entreprises du Congo FEC va accompagner le gouvernement congolais dans la guerre contre les 8 marques de farine de maïs incriminées. Cette annonce a été faite hier mardi à Kinshasa au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, par le président du patronat congolais, Robert Malumba. Les deux personnalités ont fermement condamné l'attitude coupable de certains opérateurs économiques véreux qui ont commencé à changer les sacs contenant ces farines impropres à la consommation humaine et animale. Ils les appellent au respect des textes en la matière car les services sont en alerte maximale. On écoute le patron de la FEC, Robert Malumba, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
La farine n'est pas de bonne qualité. Normalement, elle ne peut pas entrer en RDC. On ne doit pas privilégier seulement les affaires si les produits ne sont pas de bonne qualité. Si réellement il y a certaines personnes ou bien certains opérateurs économiques qui les font, ça c'est condamnable. La RDC est régie par les lois. Les lois de la République doivent être respectées. La sécurité des Congolais aussi doivent être assurées. On ne peut pas admettre une personne qui soit opérateur économique ou pas, de faire entrer les produits qui sont périmés. Et la FEC est contre cette pratique au cas où elle existe. Nous sommes en train de préparer ça. On a parlé aussi un peu avec Excellence par rapport à cela. Et nous avons fixé un rendez-vous mi-septembre pour nous rencontrer à notre chef de la fédération pour les préparatifs de la cour.
À Kinshasa, 4 jours après l'incendie qui a ravagé le pavillon 5 du marché de la Liberté, les commerçants et vendeurs se plaignent de ne pas avoir repris leurs activités. Plusieurs d'entre eux affirment avoir tout perdu. Selon eux, leurs espoirs sont tournés vers la première ministre Judith Suminois qui a promis de mettre des fonds à la disposition des victimes pour leur permettre de redémarrer leurs activités. Elle l'a dit le lundi au cours d'une réunion avec une délégation des vendeurs de ce marché. Reportage Plamedimbi Avanga.
Assis devant ce qui reste de leur table, vendeurs et vendeuses sont visiblement très inquiets. Selon les témoignages des chefs du marché, les lundis, ils se sont retrouvés autour de la table de la première ministre. Question de faire le point de la situation et de trouver une solution en dressant une liste des victimes de l'incendie. D'autres vendeurs, sous les chocs, sont à l'hôpital pour l'instant. Les mamans trouvées sur place disent fonder leurs espoirs sur Judith Suminois.
J'ai perdu beaucoup de choses, des mâles, des habits, des sacs de fournitures scolaires, tout est détruit. J'élève mes enfants avec cet argent car je suis veuve. Mais je suis très contente et je remercie le bon Dieu pour le bienfait et les promesses de la première ministre.
J'ai perdu des machines à coudre et tous les habits de mes clients sont partis aussi. Qu'ils nous remettent nos marchandises car on n'est pas bien moralement. Nous, nous sommes ici au marché parce qu'on est fort. D'autres, au moment où je vous parle, sont à l'hôpital.
Les chefs du pavillon 5 expliquent ce qu'il a dit à la première ministre, Jean-Jacques Massampo.
Au niveau de la primature, il y a eu échange. Ça a demandé d'harmoniser des listes dans 3 jours pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure nos amis sinistrés.
Les vendeurs du pavillon 5 ne vendent plus pour le moment, leurs marchandises ayant été consumées dans l'incendie.
Peine de mort requise contre 50 prévenus au procès du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa. Le ministère public a conclu hier mardi son réquisitoire, débuté le lundi devant les tribunaux militaires à la prison de Ndolo. Il n'a rien requis contre les prévenus Tikimo Alain, appelé Fula Fula, puisque reconnu comme étant non lucide. Les avocats de la défense vont commencer leur plaidoirie vendredi prochain. Lundi, c'était le tour des parties civiles de plaider et principalement celles de la République qui ont réclamé au prévenu 250 millions de dollars pour le préjudice causé à l'État congolais. Le ministère public, quant à lui, n'a rien revendiqué en termes d'indemnisation, préférant laisser cela à l'appréciation des juges. Rappelons que cette prévention, à savoir association des malfaiteurs, terrorisme, attentat, meurtre, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes et munitions de guerre et financement du terrorisme sont mises à charge des prévenus. Le verdict n'interviendra qu'après les répliques de toutes les parties à l'issue des plaidoiries de la défense.
Les autorités congolaises expriment leur regret après l'agression dont ont été victimes 3 diplomates français samedi à Kinshasa. C'est à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une tentative de déguerpissement dans une emprise française dans la commune de la Gombe que cette forfaiture a été commise en violation des conventions internationales. L'affaire est désormais close d'après l'ambassade de France qui a échangé à ces sujets avec la ministre des Affaires étrangères et le président de la République le lundi. Des mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, indique l'ambassadeur français Bruno Aubert au terme de l'entretien avec la chef de la diplomatie congolaise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Élément de réponse avec Jeff Ngoy.
Pour rappel, c'est sur base d'une réquisition d'information des magistrats du parquet que des éléments de la police ont voulu exécuter un jugement pour déguerpir un diplomate. Or, selon l'ambassadeur français, la justice congolaise avait déjà statué en faveur de la France l'année dernière pour confirmer la propriété française sur cette emprise depuis 1972, indique une source diplomatique. Selon le ministre de la Justice, 5 policiers qui ont tenté d'exécuter le jugement qu'il qualifie d'injuste ont été arrêtés sur ordre de l'auditeur général des FRDC. En attendant leur procès, ils sont placés en détention provisoire à l'auditorat. Aussi faut-il également rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on déplore ce genre de conflit foncier conduisant à un déguerpissement jugé illégal. Quelques années auparavant, l'ambassadeur du Nigeria à Kinshasa en avait fait les frais, toujours à Gombe, et il avait été réhabilité dans ses droits grâce à l'intervention de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba.
À la suite justement de cet incident, le ministre de la Justice a annoncé hier soir la suspension du procureur général près la cour d'appel de la Gombe qui a émis la réquisition pour déguerpissement du diplomate français ainsi que l'arrestation de tous les responsables et l'interpellation du juge qui sont intervenus dans cette irrégularité.
L'invité
de ce journal est le coordonnateur régional du réseau des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés. Namegabe Murabaza analyse le contexte de recrutement de cette catégorie de la population dans la province du Sud Kivu. Il insiste sur les acquis laissés par la MONUSCO avant le désengagement définitif de la mission onusienne de cette province. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Murabazine, bonjour.
Bonjour.
Parmi les partenaires clés qui ont toujours accompagné les organisations qui œuvrent pour la protection des enfants au Sud Kivu, la MONUSCO jouait un rôle très important. Et maintenant que la MONUSCO s'est retirée du Sud Kivu, comment vous vous battez sur ce terrain où vous venez de perdre un partenaire de taille?
Certes, depuis le mois d'avril et particulièrement le 25 juin, où la MONUSCO s'est complètement désengagée de la province du Sud Kivu, nous, les organisations de la société civile, nous traversons une période qu'on pourrait appeler d'orphelin, parce que on recevait la capacitation de la MONUSCO. Et après, elle s'est arrêtée. Mais elle ne s'est pas arrêtée automatiquement. La MONUSCO a eu le temps de nous préparer à continuer à faire ce travail en collaboration avec le système des Nations Unies, particulièrement l'UNICEF, et également avec les structures de l'État, les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, et les forces de défense et de sécurité. Donc cette capacitation très importante que nous avons reçue de la MONUSCO au cours des décennies passées, nous sommes en train de vouloir continuer le combat contre le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés. Et c'est la raison pour laquelle nous, les organisations de la société civile du Sud Kivu, on se trouve pour réfléchir sur les forces et les faiblesses et les défis que nous devons aborder chaque jour ou chaque semaine pour protéger des enfants dans les zones qui sont encore occupées par les groupes armés.
Une façon pour vous de dire que les enfants sont toujours utilisés par les forces et groupes armés dans la province du Sud Kivu et dans les autres provinces de l'Est en proie à l'insécurité comme le Sud Kivu.
Affirmatif, les enfants ont continué d'être recrutés et utilisés par certains groupes armés, parce qu'il y a plusieurs groupes armés qui se sont engagés avec le travail conjoint société civile, gouvernement congolais et la MONUSCO, qui s'étaient engagés à ne plus recruter et utiliser des enfants. Mais malheureusement, il y a d'autres groupes armés qui n'ont pas suivi cette pression nationale et qui continuent à recruter, à utiliser des enfants dans leurs actions des groupes armés. Et cet exercice de la société civile, il se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, en Tanganyika, en Ituri, et on va chuter pour se rencontrer toutes les cinq provinces à Bunia dans la première semaine du mois de septembre, pour essayer de mettre en commun toutes les informations en rapport avec cette situation tant décriée du recours aux enfants, filles et garçons, comme combattants dans la situation qui continue dans ces cinq provinces là-bas.
Oui, comme c'est un exercice de routine que vous faites annuellement, une évaluation de la situation des enfants. Est-ce que les variantes du paramètre indiquent toujours que la situation des enfants utilisés par les forces et groupes armés sont à hausse ou des fois une situation statique où elle varie selon les époques?
C'est ça l'objectif de l'exercice, d'abord provincial et après que nous allons faire au niveau interprovincial. Donc, je ne peux pas répondre à cette heure. C'est peut-être à la fin de la journée que nous allons comprendre que la situation, est-ce qu'elle évolue positivement ou négativement. Mais le problème dans nos provinces ici, c'est comme la saison de pluie. Il pleut le matin, après l'après-midi, c'est le soleil. Et donc, il nous arrive de retirer plusieurs enfants, filles et garçons. Au moins, les groupes armés qui nous remettent les enfants et ils s'engagent à ne plus recruter et utiliser. Mais il y a d'autres qui naissent ou qui sont dans des zones qu'on n'a pas encore atteint.
Murabazina Megabe, nous vous disons merci.
Merci aussi à Radio Okapi.
Fin de ce journal, coordonné par Pelle Kipela Mondo, Deps Vitaïté à la technique. Merci de l'avoir suivi.
Retrouvez les informations de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502, puis le 311 sur Vodacom pour ne rien rater de l'actualité du pays. Les informations de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés Vodacom.